France Inter.
Il y a un enfant sur ce dessin, il n'a pas de bouche et il est rouge, peut-être même rouge sans l'enfant, et il a de l'eau jusqu'au cou dans le lavabo, il est coincé, le robinet ne cesse de couler, il va finir par se noyer. À côté de lui nage un serpent, drôle de copain pour un enfant. Et puis il y a le bonhomme à moustache dans son costume vert pistache, chapeau pointu, turlututu, l'homme à côté du lavabo, c'est rigolo, non ça ne l'est plus. Parce que pourquoi il l'aide pas l'enfant sans bouche qui se noie? Qu'est-ce qu'il fait là? Ses yeux sont noirs, petits, perçants, presque méchants. Il a vraiment une tête bizarre juste à côté de cet enfant. L'enfant sans bouche laisse échapper une lettre et quelques-unes. Après, elles tremblent pas, très assurées, elles se rassemblent, elles vont parler. Elles disent « Au secours !» Oui, c'est gravé au milieu du dessin d'enfant. L'enfant sans bouche, certainement.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Je viens du grand pays de mon enfance, avec ses tendres jardins, avec ses ruisseaux d'innocence. Je viens cœur éclaté d'une famille où je vivais dans un coin, moitié silence, moitié fille.
Marie Laforêt, emporte-moi et bonsoir et bienvenue Mieko Yama.
Bonsoir Julia Foyce.
Je viens, cœur éclaté d'une famille où je vivais dans un coin, moitié silence, moitié fille. Il vous dit quoi ce silence à vous? Elle vous raconte quoi cette chanson?
Elle raconte à quel point une enfance fracassée, agressée va façonner les adultes que nous sommes. Elle raconte ça, mais avec la poésie, avec l'ouverture vers l'amour et vers la vie, en fait.
Il dit sans doute aussi les mots que l'enfant sans bouche ne prononce pas. L'enfant sans bouche qui fait la couverture de votre récit, Le Petit Vélo Blanc, sorti il y a 10 ans. Maintenant, c'est l'un des tout premiers récits sur l'amnésie traumatique. Ce voile noir qui s'abat bien souvent et pour longtemps sur les victimes de violences sexuelles. Et pourtant, elle laisse échapper des signes presque malgré elle. Ce dessin... C'était le vôtre, c'est vous qui l'aviez fait 6 mois après les faits, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Et vous l'aviez donné à votre mère?
Alors non, sur le dessin, je sais que je l'ai fait en classe, parce qu'il y a toujours un tampon où il y a écrit ouais. Janvier 78, mais ma mère l'a retrouvé après, okay. Quand les souvenirs des viols que j'ai subis enfant sont remontés. Donc elle les a découverts dans ses affaires, elle les avait gardés en fait.
Donc souvent, comme on dit, tout était déjà là, c'est juste qu'il manquait quelqu'un pour assembler le puzzle. Vous êtes aujourd'hui activiste des droits de l'enfant, cofondatrice de la branche française du Brave Movement, mouvement international de survivants qui lutte contre les violences faites aux enfants. Vous dites survivant, vous, pas victime ou ex-victime. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a une impunité majeure des violences sexuelles commises sur les enfants et que donc on est victime si on a eu un procès et si l'auteur est condamné. Et c'est pour ça qu'on tient beaucoup à ce terme survivante et survivant, parce qu'il est plus représentatif des gens qui ont été victimes de ces faits. Quoi.
Et puis il rend mieux compte aussi de l'horreur de ce qu'on subit. C'est-à-dire que survivant, il y a l'idée de quelque chose de massacré, il y a l'idée d'une guerre aussi, on pense à ça, on pense à la mort de très près. Il y a tout ça dans ce mot-là, il y a cette charge-là, alors que est-ce que victime serait presque un peu trop light?
Oui, c'est vrai, et je trouve aussi dans le terme survivant et aussi dans le terme survivor en anglais, puisque c'est un mouvement international, il y a aussi une force. Mm-hmm. C'est-à-dire que on s'est rassemblés et on veut mettre fin aux violences sexuelles sur les enfants. Donc il y a ce côté aussi un petit peu guerrier, on va dire.
Oui, parce que, spoiler, c'est possible d'y mettre fin. Ce n'est pas une sorte de fatalité contre laquelle on ne pourrait rien. Voilà. Survivante donc, autrice, activiste et aussi ancienne journaliste. Mais cesse-t-on un jour de l'être tout à fait? Ça, je ne sais pas. Vous êtes tout ça à la fois, Mieko Yama. Plein d'autres choses encore et vous allez nous le raconter ce soir. Vous êtes, vous, dans ce miroir. Prenez-le. Regardez-vous. Et pour vous décrire à celles et ceux qui nous écoutent, vous diriez quoi? Ah
Gros silence. Une dame.
Une dame. Donc ça vous pose là, on est quoi? On est sur le statut social ou on est sur...
Pas du tout, mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de me décrire dans un miroir, me regarder de temps en temps. Mais voilà, j'ai...
Non, c'est bien une dame, parce que ça dit aussi une forme de dignité, d'élégance, ça vous va bien.
Bah écoutez, oui, et puis voilà, il y a la double origine aussi, et il y a...
Double origine franco-japonaise, ouais.
Par mon père, et puis il y a...
Donc y a... des yeux en amande et noirs, ça oui.
Exactement, et puis à la fois des forces de vie, on va dire, ouais. et puis certaines années qui sont passées quand même sur le visage.
Vous nous direz ce soir ce long chemin vers vos souvenirs, chemin qui vous conduira jusqu'en cour de cassation, où vous avez commencé à vous battre pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels, et depuis, vous n'avez jamais lâché.
Galope vers sa liesse, galope vers sa liesse, vers sa liesse. Galope, galope, galope sous l'orage, galope sous l'orage, dans la nuit et la fange, sur le chemin des anges. Galope, galope, sans fanion, sans armoirie, baisser, baisser les ponts-levis. Combien de kilomètres encore? Combien de kilomètres encore? Combien de kilomètres avant le jour, avant l'aurore? Combien de galops à venir? Combien de galops à tenir? Combien de dragons à oxyre? Combien, combien de forteresses avant l'amour, avant l'ivresse? Chevaleresse, chevaleresse, galope sans armure, galope sans armure, galope le cœur sûr vers l'azur. Combien de fiefs à défendre, combien de siècles à attendre, combien de murs à abattre, combien de flèches pour combattre dans ton carquois de joie. Continue ta course pour que se lèvent les matins. Continue ta course qu'aujourd'hui et demain je me hisse vers ton allure, vers tardiesse. Je me hisse vers ton allure, vers ta tendresse. Chevaleresse, chevaleresse.
Babix sur France Inter avec ce titre Chevaleresse Amazone, qui sait, peut-être combattante, certainement Mieko Yama. Vous croisez le fer avec nous en marge ce soir contre les violences faites aux enfants, contre ce silence qui les autorise, contre un système qui les encourage. Hein, quoi ? Patriarcat ?
France Inter en marge.
La connaissance au sens vivant et personnel du terme, je l'ai eue dès le départ. d'abord le plaisir de pouvoir ouvrir les yeux sur un paysage au lieu de les fermer parce qu'une bagnole vous transporte entre deux murs de béton. Bâtir, planter ma tente dans une forêt où j'imaginais qu'un jour je pourrais bâtir ma maison. La nature, c'est ça.
Alicia Vuillot, pour ce croisement improbable entre l'écologie politique, en gros, et la musique hippie, la musique de R, évidemment, que vous aurez tous reconnu. On est où, là ?
Là, on est déjà beaucoup d'années en arrière, dans une maison en pleine nature, près d'une rivière qui s'appelle le Buco. Et on est chez mon grand-père.
Le Buco, le trou, quand même, en italien.
Oui. Okay. Bah, c'était un peu un trou. La maison était effectivement dans une espèce de vallée. Et c'est mon grand-père qui parle.
Oui, Bernard Charbonneau, l'un des fondateurs de l'écologie politique. Un costaud, hein, le grand-père, sacrée figure. Vous diriez patriarcale, la figure ?
Ah, carrément. Et révolutionnaire, quand même.
À quel niveau ?
C'était le patriarche dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il racontait très bien les histoires, mais il n'y avait que lui qui parlait à table. Ou alors
bon
il fallait crier pour s'entendre. Pour
bon résumé. Et votre père, pareil ? Assez patriarcal lui aussi ?
Alors oui, patriarcal, mais pour une autre raison. C'est, il est né dans le Japon des années 30, mon père, et donc il est patriarcal parce qu'il a l'image des années dans lesquelles il a été élevé et de la société dans laquelle il a été élevé. Ouais.
Qu'est-ce que vous diriez de lui comme père, comme homme ? Donc il était chercheur au CNRS, il est venu en France pour bosser à l'Institut Pasteur.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Comme père, c'était un père assez sévère, très exigeant. Et à la fois, c'était un père qui nous a appris beaucoup de choses. Il faisait beaucoup de sport, donc on faisait du sport avec lui, beaucoup de musique. Mais bon, ce qui prédominait quand même, c'était sa sévérité, son exigence. Ouais.
Que diriez-vous des femmes qui, elles, vous entouraient aussi, votre mère ou votre grand-mère ? Qu'est-ce qu'elles vous disaient du féminin ? Est-ce qu'elles aussi, elles étaient dans des postures assez classiques de femmes ou pas du tout ?
Oui et non, c'est-à-dire que oui parce que bon, il a fallu supporter mon grand-père et mon père, et non parce que c'était des femmes. Ma grand-mère maternelle, elle avait un très fort caractère, et ma mère aussi. Et c'était des femmes très volontaires, très courageuses, voilà. Mais quand même dans un patriarcat bien établi.
Vous êtes née le 3 avril 1972 à la maternité de Puteaux dans le 93. Trois filles, vous êtes la sœur du milieu. À la maison, ça sent bon la cuisine du sud-ouest. Dans le couloir résonne le son d'un piano, mais aussi celui des cris. Ils sont quotidiens, les cris. C'est votre père qui vous engueule ? C'est entre vos parents ?
Il y avait beaucoup entre les parents, et il y avait aussi certains cris sur nous, oui. C'était un petit peu les méthodes éducatives de l'époque. Donc voilà, il y avait ça aussi. Ouais.
Vous, petite fille discrète, réservée, parfois trop, vous dit-on, vous baladez partout avec votre ours bleu, Pierre, il s'appelle, avec lui. Vous inventez tout un monde à parcourir, à découvrir ensemble, vous fendriez les airs. Enfin, non, les mers, mais enfin, bref, la vie, ce serait quand même 2 ans de vacances. C'est que ça, Nico.
Eh bien, écoutez, c'est une série à l'époque que
deux
je regardais.
Deux ans de vacances, donc.
Voilà, 2 ans de vacances sur des jeunes qui partent sur un voilier et qui sont enlevés par des pirates. Et j'adorais regarder ça quand j'étais enfant. Ça me faisait rêver.
Alors, les vacances, c'est dans la tête et devant la télé pendant l'année. Dans le Béarn, chez la grand-mère, avec Papy Charbonneau aussi. Et l'été, on va chez une grand-tante en Charente-Maritime. Et c'est là que ça se corse. On est en 1977, vous avez 5 ans. Quels sont vos souvenirs de cet été-là ?
C'est un été où il faisait extrêmement chaud, caniculaire presque. Et j'étais seule parce que ma petite sœur venait de naître, ma grande sœur n'était pas là. Et arrive cette espèce de cousin moustachu avec la barbe en collier qui m'apprend à faire du vélo brutalement avec ses chiens qui aboyaient, ça je me rappelle de ça. Mmh. Et après voilà, il m'a agressé sexuellement, il m'a violée à plusieurs reprises le même jour.
Outre votre dessin dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir tenté de le dire aux adultes qui vous entouraient à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, non. Vraiment pas. Enfin, c'est le trou noir total. J'ai eu 32 ans d'amnésie traumatique, donc j'ai oublié les viols, entre guillemets. Et c'est rétrospectivement que j'ai reconstitué le puzzle. Mais à l'époque, quand j'avais 5 ans, j'ai aucun souvenir.
Blackout immédiat.
Ouais, complètement. Et c'est classique.
Enfin, oui. Ouais. Ce qui compte, alors, c'est d'avancer. À la télé, il y a Steffi Graf. Vous l'admirez, vous serez comme elle. Alors non, pardon, vous serez comme Noah. Voilà, oui, ça c'est bien, Yannick Noah. Tennisman, tout un programme au mur de votre chambre, des baisers de Doineau et des baisers de cinéma. Truffaut, James Dean, parce que ça mord pas. Ville, Big in Japan, c'est votre chanson d'adolescence, ça ?
Oui, carrément. Ouais.
Elle ressemble à quoi, votre adolescence ?
Elle ressemble à plein d'amitiés.
Ouais.
Des amitiés hyper fortes, des fous rires, des rébellions. Mais elle ressemble aussi à des grosses difficultés intimes. Mmh. Maintenant, je peux expliquer que c'était en grande partie lié aux violences que j'avais subies enfant. Donc, des problèmes psychologiques, des troubles de comportement alimentaire, des phobies scolaires, des angoisses. Donc, il y avait les deux.
Qui vont vous poursuivre toutes ces années, que ce soit la primaire, le collège, le lycée. Ça va vous poursuivre et ça va aller, j'imagine, pas franchement en s'arrangeant. Enfin, c'est assez rare que ça s'arrange tout seul.
Disons que oui, ça va me poursuivre. Et il a fallu se battre pour développer le côté positif de la vie,
ouais,
tout en étant accompagné par tous ces symptômes. Ouais.
L'adolescence, c'est aussi le corps qui se transforme, et puis le désir qui naît, et puis l'amour, et puis les flirts, et puis les premières soirées, les premiers baisers. Comment est-ce que vous vivez cette dimension-là de votre vie à l'époque ?
À la fois, j'étais passionnée, donc je tombais amoureuse très très souvent.
D'hommes ou de femmes, de filles ou de garçons ?
Plutôt de filles.
Ouais.
Alors ça, c'était complètement platonique, on va dire. Et je tombais parfois amoureuse aussi de garçons, mais c'était compliqué. C'était compliqué.
C'était l'intime qui était compliqué, ou c'était même le sentiment amoureux et même le désir ?
Le sentiment amoureux, non. J'étais quelqu'un de passionné. C'était l'intime qui était compliqué. Et bon, dans le cas de gens qui ont été victimes de violences sexuelles en enfance, c'est assez classique.
Évidemment. En terminale, vous ratez plusieurs mois de cours hospitalisés à Robert Debré pour soigner vos troubles alimentaires. Mais le bac, vous l'avez. Hein, quand on vous dit que vous êtes quand même du côté de la file, le bac, vous réussissez à l'arracher. Alors, vous partez en Espagne toute une année. Mais pour faire quoi ?
Pour apprendre l'espagnol et puis pour découvrir le monde. Et puis je pense que c'était une année de respiration aussi après cette année de terminale qui a été compliquée. Donc j'avais besoin de faire autre chose avant de savoir ce que j'allais vraiment faire dans la vie.
Vous allez courir beaucoup en Espagne, beaucoup de sport. Pourquoi ? Ouais.
Je sais pas. Je pense que j'essayais d'intégrer la vie, de revenir dans mon corps. Je sais pas. Déjà à l'époque, j'avais un rapport particulier avec mon corps, et à la fois c'était exaltant parce qu'il y avait des gens de tous les pays, il y avait des étudiants de l'Europe entière, etc. Et donc j'étais dans une espèce d'effervescence, on va dire.
Quand vous dites particulier, c'est qu'il était étranger à vous-même ? Vous étiez coupé ?
À 17 ans, je crois que j'étais en mode contrôle. Donc il fallait absolument faire un milliard de sports pour contrôler le corps, parce que je pense qu'il y avait, tous ces souvenirs là qui étaient en train de bouillonner, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Donc j'étais vraiment, pour me sentir vivante, parce que j'étais complètement dissociée, il fallait que je fasse du sport tout le temps. Voilà.
Vous revenez à Paris, mais vos débuts à la fac sont compliqués. Tempête sous un crâne, tempête dans un corps, tempête au cœur. Alors ok, ce sera pas 2 ans de vacances dans l'océan, mais au moins quelques mois à travers toute l'Europe de l'Est. C'est Queen qui va vous accompagner à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et l'ex-Yougoslavie avant d'atterrir en Bulgarie. Comment se passe ce voyage ?
Ah, c'était incroyable. Vous parliez des angoisses là, donc j'avais du mal à découvrir le monde parce que j'étais quand même un peu plombée par tout ça. Et là, je me dis, j'ai 20 ans, allez, j'y vais, je pars.
Et c'est une façon de se tester en permanence, de voir jusqu'où on peut aller ?
Oui, c'était alors peut-être, mais c'était aussi une manière de célébrer la vie, enfin de célébrer mes 20 ans. Et donc je me dis, allez, j'y vais. Et je suis partie sans savoir exactement où j'allais, ni où je couchais. Je découvrais des gens, j'ai fait plein de rencontres et au final, j'ai passé un été génial.
Et puis toute seule en plus.
Toute seule, ouais.
Vous avez jamais eu peur ?
Si, j'ai eu peur. Ouais. Si, j'ai eu des aventures.
Parce qu'on parle de la Yougoslavie en pleine guerre, hein, si vous voulez.
Ouais, tout à fait. Bah, on est resté plusieurs heures, je me rappelle, à Sarajevo. Et oui, c'était assez tendu. Les trains étaient sales. Il y avait
des vols. Petite ascendant tête brûlée, quand même. Hein.
Oui, mais je pense que j'ai...
Ah, c'est pas un centre Pierre et Vacances, hein, je veux dire. On est,
non.
C'est pas un parcours d'accrobranche.
Non, mais je suis pas restée. Je suis pas restée en ex-Yougoslavie. En l'occurrence, j'étais en Bulgarie. Et là, c'était, bon, le mur était tombé. C'était quand même mieux. Et j'ai fait des super rencontres. Mais oui, je pense que j'avais un fond d'angoisse qui m'accompagnait, mais à la fois j'avais ce désir de vie, de découverte, de relation. Donc voilà, c'est encore une fois, il faut faire bouillonner la vie, quoi. Quand on a ces soucis intérieurs, il faut essayer d'aller au-delà, quoi. Voilà, c'est un peu ça.
Retour en France, c'est décidé, vous serez journaliste, vous l'aviez toujours voulu de toute façon, mais les grandes écoles, c'était pas pour vous, trop dur, trop de stress, la peur de se planter, convaincu même de se planter, mais sur les conseils d'un certain Noël Mamère, ex-journaliste et copain du grand-père. La fac, vous poursuivrez, et parallèlement, c'est sur le tas que vous allez vous former, des stages, vous vous formez à l'AP, puis à l'AFP, à Londres, comme au Japon, toujours voyager, un jour vous postulez, 98, vous êtes prise, en poste, en agence, vous commencez à travailler. Mitsuko, c'est comme ça, mais quelle énergie, quelle voix. Elle résonne tout particulièrement pour vous, cette chanson-là, Mieko Iyama. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Alors, si je me replonge dans le passé, c'est les soirées d'adolescents avec mes cousins, mes cousines, mes amis. Et on ressent la vie dans notre corps, on est à fond. Il y a un truc de fou, quoi. Bah, c'est cette chanson. Et puis plus récemment, j'ai une grosse émotion parce que j'ai vu Catherine Ringer sur scène où elle raconte que cette chanson, elle parle de ce qu'elle a subi enfant, agression sexuelle quand elle était enfant, et ce venin qui lui tord le corps, c'est ça. Mmh. Et donc, pourquoi elle me parle cette chanson, c'est parce que c'est ça. C'est à la fois, il y a un venin dans notre corps et à la fois, il y a la vie qui résiste, la création, le bonheur. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Et quelque part, c'était aussi une façon de dialoguer avec ça, à l'époque, sans le savoir. Les éléments étaient tous là, quoi. On se parlait tout à l'heure, je parlais de ce puzzle qu'on assemble à un moment donné. Et ben, ça faisait partie des pièces de ce puzzle. Activiste pour les droits de l'enfant et pour la lutte contre la pédocriminalité, autrice de ce récit, Le Petit Vélo Blanc, survivante vous-même, vous vous battez aujourd'hui pour que ces crimes ne soient plus jamais prescrits. Vous avez été, vous, jusqu'en cour de cassation, vous nous raconterez. On est au tout début des années 2000 et, je le disais, vous commencez à travailler.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
15 juin 2001, 20h, Béatrice Schoenberg sur France 2.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'ouverture enfin du procès pour pédophilie de l'ancien instituteur Jackie Kaisersmerz qui a demandé pardon à ses victimes. Il est poursuivi pour plus de 70 agressions sexuelles. Il reconnaît sa responsabilité pour certains actes qu'il minimise et qui sont aujourd'hui prescrits.
Vous étiez, Mie Koyama, dans la salle d'audience pendant ce procès. Vous y étiez pour l'AFP. Comment est-ce que vous avez vécu les audiences ?
J'étais très angoissée avant cette audience. D'ailleurs, j'en bafouille.
Mais vous saviez pourquoi vous étiez angoissée ?
Non, je ne savais pas, puisque à l'époque, je ne savais pas ce dont j'avais été victime enfant. Et par contre, j'ai un souvenir très précis d'un des témoignages. C'est un jeune d'une quarantaine d'années qui s'avance pour raconter ce que Kaisersmerz lui faisait subir dans la forêt. Et je me rappelle très précisément, il dit, à un moment donné, il a porté du sopalin et de l'huile pour que les choses se passent mieux, on va dire, soient plus fines. Excusez-moi, hein, on rentre dans les détails. Oui. Et je me rappelle que quand il dit ça, je suis sur le banc des journalistes, je hurle. Je hurle, littéralement, je sors de mes gonds, je dis « Oh non !» Alors que j'étais quelqu'un plutôt réservé, plutôt mesuré. Et je me rappelle les copines journalistes se retournent, la présidente me regarde et je ne sais pas ce qui m'arrive. Et, et j'ai mis le voile après.
Ouais.
Je me suis juste dit que j'étais choquée par ce qu'il racontait. Mais je n'ai pas fait le lien avec moi.
Il y a quand même ce premier cri qui fissure le silence. Et puis en vous, quelque chose qui lentement, sûrement, se craquelle. Il y a la naissance de votre nièce, par exemple. Et c'est un premier verrou qui saute. Et puis, au boulot, pour vous, ça se tend. Vous êtes au Japon, vous frôlez le burn-out. Vous décidez d'entrer en France. Un poste se libère à Grenoble. Et vous rencontrez un soir votre chef de poste. Racontez-nous cette rencontre.
Oui, je rencontre ma nouvelle chef de poste et quand je la vois, j'ai un espèce de... je m'effondre. C'est-à-dire que j'ai besoin de m'asseoir. Il y a quelque chose qui... comme un espèce de choc émotionnel qui s'est produit. Et ce soir-là, on parle beaucoup, on avait beaucoup de points communs. Elle me raconte la Russie, d'où elle vient, etc. Et après cette rencontre, elle a ouvert comme une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'il y a plein de souvenirs de mon enfance qui sont remontés.
Parce qu'il y a
comme des jaillissements.
Entraînez-vous, il y a une sorte d'écho qui fait que tout à coup, le souvenir a pu jaillir.
Oui, alors je l'ai appris plus tard. L'écho dont vous parlez, c'est qu'en fait, à l'époque, les souvenirs de ce que j'ai subi enfant sont déjà remontés, mais elle a été opérée à cœur ouvert quand elle avait 5 ans. Et
le même âge que vous, donc.
Le même âge que moi. Et plus tard, alors je fais un petit peu des sauts dans le temps, mais plus tard on en a parlé. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai dû avoir, on est devenus amis, mais j'ai dû avoir ce choc émotionnel parce qu'il y a quelque chose qui bouillonnait en elle, qui bouillonnait en moi de l'ordre de l'enfance, sur lequel il n'y avait pas de mots, mais qui étaient des émotions totalement enfouies et à la fois éruptives, j'ai envie de dire.
Et donc, il y a quelque chose qui se passe de très fort en vous. C'est quoi ? C'est un jaillissement de souvenirs, d'émotions ?
Oui.
C'est un bordel et pour le coup pas forcément joyeux. C'est là que vous décidez d'aller voir un hypnothérapeute, de faire une séance d'hypnose ?
Complètement, oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai que j'ai sauté des étapes parce qu'effectivement, Delphine, c'est d'abord le choc émotionnel. Et après, tous ces souvenirs d'enfance qui reviennent de façon hyper précise, des détails de mon école, du parc de mon école, la cantinière qui me sert des coquillettes. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai l'impression d'avoir des souvenirs vieux de 30 ans qui remontent à ma mémoire auxquels j'ai pas du tout pensé. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et dans le cas d'une enquête qui avait été rouverte par la procureure générale de l'époque, on parlait d'enfants disparus en Isère, j'ai été voir un gendarme, parce que dans le cadre de mon travail, et ce gendarme dit, mais si on auditionnait une des victimes par hypnose, peut-être qu'on en apprendrait plus sur... Il recherchait un tueur en commun. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça a fait tilt dans mon esprit, et j'avais repéré le 06 d'un hypnothérapeute à Grenoble, je vais le voir. Oui. Et dans les deux minutes... j'ai hurlé le surnom de mon agresseur qui était Jeannot, et dans les deux minutes sont remontés les souvenirs du premier viol qu'il m'a fait subir quand j'étais enfant.
Et une fois que ces souvenirs remontent, vous, vous faites quoi ?
Je referme la boîte. Tout de suite. Je me dis, non, mais c'est une vieille histoire, c'est...
Sauf que c'est trop tard pour la refermer. Une fois ouverte la boîte, c'est très compliqué. Comment vous allez à ce moment-là ?
Je vais au début, je me rigidifie, je pense, et peu à peu, je vais de plus en plus mal, parce qu'effectivement, une fois que la boîte est ouverte, tout bouillonne, hein, ce bouillonnement dont je parlais, et tout ressort, et on peut rien. C'est-à-dire, on peut rien, on subit.
Vous allez mal, vous diriez, jusqu'à quel point ?
Oh, je vais mal jusqu'à des pensées suicidaires, jusqu'à des angoisses abominables, des peurs horribles, des colères horribles aussi.
Vous avez 36-37 ans à l'époque, hein, c'est ça ? Vous allez voir votre mère, pourquoi ?
Parce que quand les souvenirs de ces viols remontent, je suis en syndrome de stress post-traumatique, et donc on fait un retour en arrière, je me sens comme une petite fille de 5 ans. Donc la première personne à qui j'ai eu le sentiment que c'était important d'en parler, parce que j'avais besoin d'être protégée, même à 37 ans, parce que c'était les effets de la mémoire traumatique, c'est ma mère. Donc, je lui demande si elle veut bien écrire à mon agresseur pour savoir s'il ne veut pas avouer un petit peu les choses. C'était très naïf, hein, mais voilà. Donc elle le fait, et évidemment il ne répond pas. Et à ce moment-là, je lui demande d'écrire au procureur de l'époque, même si je sais que les faits sont prescrits, et elle écrit au procureur de l'époque.
Entre-temps, vous vous êtes formé à la caméra. L'AFP a créé un poste de journaliste reporter d'image à la région, dans la région lyonnaise. Ça tombe bien. Ouais, mais voilà, le 11 mars 2011, un séisme secoue votre pays natal. L'amplitude est si forte qu'il génère un tsunami. Des vagues de 30 mètres de haut submergent le Japon et ravagent tout sur leur passage. Alors évidemment, vous en êtes. Quelques jours plus tard, on vous retrouve sur place. Envoyé spécial pour l'AFP.
Je suis en bonne santé. Ma maison a tenu, mais l'intérieur est complètement détruit. Ah, vraiment. Mais déjà d'être en vie, c'est formidable. Disons qu'il me faut un peu plus de temps.
Donc vous êtes sur place, vous interrogez des victimes du tsunami ravagées. Leurs maisons sont fracassées, et j'emploie mes mots à dessein. Vous venez, vous, d'ouvrir cette porte sur votre propre fracas intérieur. Comment se passe cette rencontre-là, entre vous et ces femmes-là, entre vous et ce terrain-là ?
C'est extrêmement, extrêmement émotionnel, parce que, vous savez, les Japonais, c'est un peuple qui n'exprime pas beaucoup ces émotions, et là on est dans des conditions extrêmes, et donc en fait le peu qu'elles expriment ou qu'ils expriment, ça me bouleverse profondément de l'intérieur. Donc c'est ça que je ressens, en fait. J'ai le souvenir, quand je couvre le tsunami, d'avoir été évidemment sidérée par l'ampleur des destructions, mais surtout très touchée par les toutes petites émotions que pouvaient exprimer les uns et les autres, et les unes et les autres, et j'avais jamais vu ça au Japon.
Et vous rentrez en France dans quel état, avec quelle pensée, quel projet ?
Je rentre en France avec beaucoup de culpabilité d'être partie du Japon, parce que, je sais pas, il fallait que j'y reste, mais bon, je rentre, donc pendant plusieurs mois, ça va me hanter. Oui. Ça va me hanter.
Sauf que vous allez devoir vous reconcentrer sur vous-même, parce que, contre toute attente, le procureur de la République s'est saisi de la lettre que lui a écrit votre mère. Et comme le veut la procédure, vous allez être entendu par la police. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment où vous arrivez dans un commissariat ?
Oui, je me rappelle très bien. C'était à Lyon. J'étais en train de trembler sur des sièges en plastique orange, et il y a une jeune policière qui vient me chercher et qui me demande si je suis d'accord pour déposer plainte. Elle veut la confirmation, je lui dis oui. Effectivement, je m'assois devant cette policière, tremblante, mais j'avais énormément pensé à ce que j'allais lui dire et je voulais m'en tenir à ce dont je me rappelais de façon très précise. Donc j'étais en mode un petit peu à la fois tremblotante et à la fois très concentrée, on va dire. Et au milieu de l'audition, voilà, je lui dis bon, c'est sûr, j'ai pas de témoin de ce que je vous raconte. Elle me dit, vous savez, ce genre de, à l'époque, on disait pédophile, maintenant on dit pédocriminel. Ils agissent rarement avec des témoins. Donc, et là, ça a commencé à me détendre. Je me suis dit, ah, en fait, elle me croit. Et voilà. Et on a parlé. Je me rappelle de la prescription. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, parce que je voulais être confrontée à mon agresseur, mais elle m'a dit, vous inquiétez pas. De toutes les manières, s'il refuse la confrontation, ça vaudra de culpabilité. Donc voilà, peu à peu, on se détend et finalement, ça se passe bien.
Alors lui, il va être auditionné aussi, mais il y a donc prescription. Il est entendu comme témoin assisté. C'est son droit. Il refuse la confrontation que vous demandiez. L'affaire est donc classée sans suite. Qu'est-ce que ça vous fait?
Ça a été un effondrement, parce qu'à l'époque, déjà, je suis en syndrome de stress post-traumatique, je suis hospitalisée, donc le classement sans suite, ça va me plonger dans des gouffres, on va dire, émotionnels terribles. Et là, je décide de me battre. Je décide de me battre, grâce à un ami journaliste qui me met en lien avec un avocat, Gilles Jean Portejoie, et il me dit, on va reprendre l'affaire au pas de sénateur, il me dit, pas à pas. On va attaquer cette décision de classement.
C'est pas cette expression. J'imagine un marché en train de marcher tout à coup. Effectivement, ça va pas très vite.
Donc voilà, mais j'aimais bien. Alors, il emploie ce terme-là, pas de sénateur et pas montagnard. Donc en gros, on va gravir des montagnes et on va aller. On va contester cette décision du juge de non. Ouais. Ouais, et puis après du juge de non informé, parce qu'on a redéposé une plainte avec constitution de partie civile. Et on va aller jusqu'en cour de cassation et on va revoir la question des délais de prescription et la reconnaissance de l'amnésie traumatique. Et on y va.
Comment se passe la procédure? Comment est-ce que vous la vivez? Parce qu'elle va durer 2 ans. C'est une période... vous la qualifieriez comment, cette période-là?
C'est une période compliquée. Ouais. C'est une période compliquée et à la fois, c'est là où je sens que ce combat-là, il est essentiel. Enfin, il me prend aux tripes et je ne peux pas faire autre chose que de continuer. Mais peu à peu, on va dire qu'il va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'au début, c'est un combat très individuel, donc très qui a un impact sur moi. Et peu à peu, je vais me lier avec d'autres personnes, d'autres victimes, des associations. Peu à peu, ce combat va s'ouvrir et va devenir un combat collectif. Et c'est là où je vais commencer à sortir un peu la tête de l'eau.
En décembre 2013, l'arrêt de la Cour de cassation confirme le classement sans suite. Est-ce que c'est ça qui vous pousse à écrire?
Alors oui, j'avais décidé un petit peu avant de commencer à écrire parce que je me disais, enfin c'était trop prenant, ça me prenait trop de temps, c'était énergivore et je me disais il va falloir que je continue le combat mais aussi que je passe à autre chose, que je reprenne ma vie normale, le cours de ma vie normale et à la fois... Comme la justice me disait d'oublier, je me suis dit qu'il fallait que j'inscrive dans le marbre, il fallait que j'écrive ce qui s'était passé, le mettre dans une bibliothèque, et pour pouvoir ne pas l'oublier, mais pour pouvoir aussi faire autre chose.
Justice ou pas, mon histoire, vous l'entendrez.
Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose.
Barbara, sœur de douleur, camarade de combat, compagne d'écriture découverte à l'adolescence, qu'est-ce que cette étape-là vous a permis d'accomplir, d'apaiser peut-être l'étape de l'écriture?
Ça m'a permis de, j'ai envie de dire, de pouvoir transformer le traumatisme. C'est-à-dire, je crois, à partir du moment où j'ai pu l'écrire, alors un peu, comme on disait Albert Londres, la plume dans la plaie, c'est ça. Et une fois que j'avais accompli ce travail-là, je pense que j'ai pu commencer à transformer les choses. C'est-à-dire... aller dans une lutte collective, mais qui soit aussi une lutte épanouissante, aller dans un combat politique, donc aller transformer les choses, en fait. Transformer les choses de la douleur à la construction, j'ai envie de dire.
En 2016, quelques mois avant MeToo, une autre survivante prend la parole, Flavie Flamand, animatrice radio, victime de celui qu'elle appelle le vieux photographe. Elle lit un extrait de son texte dans l'émission Stupéfiant.
Le vieux photographe ne me quitte pas des yeux, m'enchaîne, me soumet, me muselle, m'intime l'ordre et d'une pression me contraint à écarter les jambes. Derrière ses lunettes, son regard s'est durci, son œil s'est fait métal, froid, incisif et sans appel. Je me souviens maintenant que j'ai gloussé bêtement, en repoussant ses mains et en tentant de me redresser, le regard suppliant, avec le fol espoir de me tromper, de le voir se relever et, dans un éclair de lucidité, s'excuser et m'ouvrir la porte pour me libérer. Promis, je n'aurais rien dit.
Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est avec elle, après elle, toutes les voix portées parmi tout qui vous décident à avancer en votre nom propre, parce que, précisons-le, votre livre, vous l'avez écrit sous pseudo, la promo, vous l'avez faite sous pseudo aussi, et donc pas encore à visage découvert. Est-ce qu'il y a un step, un pas de plus franchi avec MeToo ?
Oui, totalement, et je dois dire que effectivement, l'exemple de Flavie Flamand m'a aidé à passer à l'étape de témoigner en mon nom propre et de publiquement. C'est vrai.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai plus honte ? Ça veut dire j'ai plus peur ? Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire j'ai plus honte et j'ai plus peur, et ça veut dire que j'assume qui je suis et d'où je viens, et mon histoire.
Ne bougez pas, Millet, on a encore besoin de vous.
Part of me that recognizes you. Do you feel?
Oui, ben, excusez-nous, on continue à discuter. Vous, vous dansiez sur du Billie Eilish, c'est très bien aussi. Nous, on se parlait à la technique ce soir. Corentin Rouchy, Ophélie Vivier, chargée de programmation. Alicia Vulot à la réalisation. Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale. Vous trouverez toutes ces références sur franceinter.fr et pour le podcast, c'est l'appli Radio France.
En marge. Sur France Inter.
Mie Koyama, qu'est-ce que ça change d'avoir investi le combat collectif ?
Ça change tout parce qu'on n'est plus seul, déjà, grosse évidence. Mais surtout, c'est-à-dire qu'on constitue une force. Depuis que j'ai rejoint le Brave Movement, je le sens d'autant plus que tous les survivants et victimes qui composent ce mouvement viennent du monde entier. Donc il y a une espèce d'élan, un mouvement, quoi, qui fait que qu'on n'est plus les petits enfants isolés, seuls dans notre coin, en train de souffrir, en train de se demander si on a raison, si on a tort, si les gens vont nous croire. Là, on se saisit de cette question-là, qui est un problème de santé publique majeur, et on y va. Mmh. Et on y va tous et tout ensemble, avec des différentes cultures, avec des différentes origines, des milieux sociaux différents, mais voilà, on y va. On y va et on règle la question. Mais parce que violence sexuelle sur les enfants.
Ce système de violence est non seulement millénaire, mais il est aussi planétaire, évidemment. Personne n'y échappe. Est-ce que, parmi les choses pour lesquelles vous vous battez avec le Brave Movement, est-ce que vous pourriez nous dire un mot des conseils nationaux de survivants ?
Oui, c'est un sujet sur lequel, auquel on tient beaucoup, qui, pour moi, c'est la continuation de MeToo. C'est le fait de donner une voix politique aux survivants et aux victimes. Et ce qu'on propose, c'est de faire un conseil qui soit composé uniquement de survivants et de victimes qui ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance et qui fassent des recommandations de politique publique, qui disent, qui dénoncent les défaillances de la justice, qui disent comment faire, mais avec leur expérience vécue. Et ça, on y tient beaucoup, parce qu'il y a un modèle
en existe
en
Allemagne.
En Allemagne.
C'est fait, et est-ce que ça a des résultats probants ?
Absolument probant, c'est devenu un conseil extrêmement légitime, des lois ont été votées grâce à eux, il y a des rapports, ça avance, le tabou a été bien brisé grâce à eux, donc c'est bien.
C'est du concret quoi.
C'est du concret, ouais. Ouais.
Sur cette route qui est la vôtre et qui vous soutient même par tant de pluie même, dans votre combat, il y aurait encore et toujours ceci. One man come in the name of love. You Too, Pride in the Name of Love. Pourquoi cette chanson-là, Millet ?
C'est un appel à continuer à mener ce combat crucial de mettre fin aux violences sexuelles contre les enfants, mais avec cet amour aussi, In the Name of Love. Et avec cette conviction intérieure qu'on mettra fin aux injustices toutes et tous ensemble. Et voilà, pour moi, c'est un message d'espoir. C'est à la fois, c'est Martin Luther King, c'est des personnes qui se sont battues contre les discriminations, contre les injustices. Et puis, c'est de le faire avec cette conscience, avec cet amour, avec ces valeurs aussi, avec ce respect.
Et alors ça, c'est le son qui vous accompagne pendant votre combat. L'objet qui vous soutient, lui aussi, ce serait quoi ?
Je l'ai apporté. Oups !
Ah, c'est une botte de cow-boy miniature. Alors attendez, elle est en quoi ? Quelle matière ? Oula, vous entendez ? Ok, c'est quoi ? C'est de la terre cuite ? Donc c'est une tiag, hein, on peut dire ça comme ça, familièrement, voilà. Avec aux couleurs des États-Unis et avec des petites étoiles dorées. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette botte, d'où elle vous vient et qu'est-ce qu'elle vous raconte ?
Alors, c'est effectivement une petite botte de cow-boy qui m'a été offerte par un ami du Brave Movement qui s'appelle Robert Schilling, qui est un ancien policier d'Interpol et qui est aussi qui a été victime de violences sexuelles en enfance. Il dit quoi ? Elle dit quoi, cette botte ? C'est qu'effectivement, cette lutte, elle est mondiale, parce qu'il y a une fille sur quatre, un garçon sur neuf dans le monde qui a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, et qu'elle se fait avec tous les pays, dans l'amitié. Voilà, Robert, c'est un homme d'une bonté exceptionnelle. Je lui ai dit d'ailleurs que j'allais apporter cette botte, il a rigolé. Et voilà, c'est l'espoir que ça nous apporte de ce lien aussi, ce lien
et
concret.
Et qu'on puisse leur mettre des bons coups de pied au cul avec des tiacs, parce qu'en plus ça fait mal avec des tiacs.
Exactement, voilà.
En Marche, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment Mieko Yama d'être venue partager et votre histoire et votre combat. Votre livre Le Petit Vélo Blanc est édité chez Kalman Levy. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.